Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Dans la démarche du bien-être, du mieux-être, il y a un grand oublié, ça s'appelle la culture. La culture, le voyage, l'itinérance, la découverte d'autres pays, d'autres informations, d'autres ethnies. Aujourd'hui, pour nous parler culture et pour nous parler notamment Kilim, j'ai la chance de recevoir Marc-Antoine Galis. Bonjour.
Bonjour.
Grand voyageur, pionnier de l'introduction du Kilim en France, c'est bien ça?
C'est ça, oui, oui.
Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le Kilim?
Donc le Kilim, d'abord le mot, on pense qu'il n'a pas de traduction. Ça désigne une technique de tissage, mais c'est un mot d'origine sûrement sanskrit, ça vient du sanskrit, c'est de l'indo-européen. Donc c'est un mot très très ancien. Et qui donc désigne une forme de tissage qui elle-même est très ancienne, dont la pratique remonte probablement aux premières communautés agricoles humaines. Donc c'est ce qu'on appelle un art premier, comme la céramique, les bas-reliefs, les peintures murales. Et c'est ce qui est de particulier dans le Kilim, la chose qui fait que le Kilim se distingue un petit peu des autres arts premiers, c'est que on a continué à pratiquer cet art jusqu'à nos jours, sans interruption. Et probablement que les motifs qui composent les décors des Kilim sont des motifs symboliques qui ont une signification liée à des croyances très anciennes et qui se sont transmises de génération en génération jusqu'à nos jours.
Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette découverte, ou à cette interaction avec les Kilim?
Alors, le Kilim s'est un petit peu imposé à moi, c'est-à-dire que à la base, moi j'étais plutôt un voyageur, c'est-à-dire je voyageais pour le plaisir de voyager, et je passais beaucoup de temps à voyager. J'ai fait des études de langue, parce que justement ça me permettait de communiquer dans tous les pays où j'allais, donc j'ai fait des études de langue, et il se trouve que je suis tombé un petit peu amoureux de la Turquie, en y passant, sur la route des Indes, comme à l'époque, beaucoup de gens faisaient. Et la Turquie m'a beaucoup... je me suis vraiment attaché. Et donc, j'ai cherché un moyen de financer mes voyages, parce que je voulais y retourner souvent. Et donc, j'ai commencé à faire du commerce. Et je ramenais de Turquie, de l'artisanat, des objets en bois, des objets en laine, enfin, toutes sortes de choses. Et puis, petit à petit, j'avais acheté comme ça des kilim à des paysans, et tout d'un coup, j'ai eu une espèce de fascination pour ces tapis, alors que je ne connaissais absolument rien. Mais j'ai été fasciné, et petit à petit, donc, j'ai éliminé tous les autres produits artisanaux, et je me suis vraiment spécialisé dans le kilim, parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de plus que juste un objet décoratif.
Et justement, ce petit truc en plus que peut apporter le kilim, quel est-il? Est-ce que vous avez réussi à le définir?
Bah oui, en fait, les kilim, contrairement aux tapis noués qui ont été commercialisés à partir d'une certaine époque, on voit notamment des tableaux de la Renaissance avec des tapis persans. Donc le tapis a fait l'objet d'un commerce depuis longtemps et donc il a été soumis à des influences mercantiles, c'est-à-dire à la demande des clients. Et des tapis ont été tissés non pas en fonction des traditions locales, mais en fonction du goût des acheteurs. Alors que le kilim n'a jamais été commercialisé. C'est-à-dire que ça a toujours été quelque chose destiné à la maison. Ça a été quelque chose qui était vraiment fait dans un but domestique. Ce qui explique qu'il n'y a pas eu de changement dans les décors des kilim, parce que ça correspondait à des traditions qui n'ont pas tellement changé au gré des époques, parce que les modes de vie non plus n'ont pas tellement changé. Le nomadisme pastoral, par exemple, est apparu vers le 3e millénaire avant notre ère. Et probablement que les nomades éleveurs de moutons du 3e millénaire, dans la chaîne du Zagros, vivaient à peu près comme leurs descendants lointains aujourd'hui, ou encore plutôt hier, parce que les choses sont en train de changer, justement. Mais en tout cas, ça n'a pas été influencé par d'autres cultures que celles de ceux qui pratiquaient, justement, cet art.
Donc, on parle de culture. Qu'est-ce qui est impliqué dans la culture, dans le kilim, exactement?
Alors, principalement des croyances. Des croyances probablement animistes, qui étaient les croyances répandues. À l'époque de la révolution agricole, il y avait le chamanisme, les croyances animistes. Et les motifs qui composent l'équilibre sont des symboles qui sont liés à ces croyances animistes.
Et quand on parle de symboles, on peut imaginer des symboles de protection, des symboles de fécondité, des symboles de sécurité, c'est ça ?
Voilà. Alors donc, en fait, il y a trois grandes catégories. Il y a, comme vous dites, il y a la protection, qui est un des thèmes très importants dans la symbolique. Il y a la fécondité, c'est-à-dire la perpétuation de l'espèce, et la fertilité, c'est-à-dire la subsistance de l'espèce. Donc en fait, c'est les trois grandes préoccupations de l'espèce humaine, c'est se perpétuer, avoir une descendance, c'est survivre, c'est-à-dire manger, et se protéger contre les caprices de la nature, puisque ce sont des populations qui sont assez démunies face à la maladie, face aux catastrophes naturelles, face à la sécheresse, face aux inondations. Et donc, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour se protéger, ce sont des rites, des rituels. Et ces rituels sont présents sur les kilims.
On peut aussi les comparer à certains pentacles, certains talismans que l'on retrouve dans nos cultures, à nous, plus en Occident ou dans les cultures du Nord, c'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des écarts chronologiques entre les stades de développement des différentes régions du monde. Le néolithique en Turquie commence probablement vers 11 500 avant notre ère. On a découvert un temple entouré par des bâtiments en Turquie, mais tout près de la frontière syrienne, qui s'appelle Göbekli Tepe, c'est-à-dire le tumulus ventru, parce que c'était un tumulus arrondi. Et donc, en fouillant ce tumulus, on a découvert un temple avec des piliers monolithiques sculptés, avec des animaux. Il y a notamment un échassier qui ressemble à un ibis. Il y a un serpent et un renard. Ce sont les trois totems donc, de ce temple.
Est-ce qu'on sait pourquoi, justement, ces animaux ?
Malheureusement, non, parce que avant l'invention de l'écriture, on n'a pas de preuves écrites, donc on n'a pas de preuves du tout des choses. Ça ne sont que des supputations. Donc après, on peut effectivement essayer de déduire, en faisant des recoupements entre différents cultes, de déduire la signification des symboles, mais ce ne sont que des déductions, il n'y a pas de preuves absolues.
On peut dire aussi que tous ces motifs retrouvés, réunis, forment une sorte d'écriture ?
Exactement, exactement. D'ailleurs, il y a pas mal d'analogies entre le tissage et l'écriture, parce que la racine est la même, c'est textus. Textus donne textile et texte. Et on retrouve beaucoup d'analogies dans le langage courant entre le tissage et l'écriture, le fil d'une histoire, la trame d'un roman. Il y a beaucoup d'analogies. Donc, il n'est pas impossible que la première forme d'écriture ait été constituée par ces symboles, qui sont en fait des idéogrammes. Vous voyez, dans l'écriture, il y a trois phases. Il y a le pictogramme, c'est-à-dire que pour dire pied, on dessine un pied. Après, il y a l'idéogramme, c'est-à-dire qu'on fait un dessin, mais on dépasse la signification de l'objet représenté et on aboutit à une idée. Par exemple, un pied, ça peut vouloir dire marcher ou se déplacer. Et ensuite, il y a le phonogramme. On ne retient du dessin que l'initiale de son nom quand on le prononce. Et notre alphabet, l'alphabet romain, est constitué de pictogrammes qui sont devenus des phonogrammes. Par exemple, le A, c'est une tête de taureau inversée qui, en hébreu, se dit Alep. Donc, on retient A. Et toutes les lettres de notre alphabet, en fait, sont des dessins. Le O, c'est un œil. Par exemple, le M, c'est l'initiale du mot mem, qui veut dire l'eau, en phénicien et en hébreu. Et donc, la forme, c'est l'onde. La forme du M, c'est l'onde. Et comme ça, toutes les lettres de notre alphabet sont à l'origine des pictogrammes qui sont devenus des idéogrammes et ensuite des phonogrammes.
Pour revenir au kilim, avec cette interprétation, on peut laisser notre imagination nous porter à, pourquoi pas, une carte au trésor sur un kilim.
Oui, en fait, on a eu la chance, avec mon co-auteur Ahmed Diler, qui lui est turc, Ce qui nous a ouvert beaucoup de portes parce que, bien sûr, lui, il est complètement bilingue. Donc moi, je parle le turc, mais peut-être pas suffisamment pour me faire passer pour un turc. Donc ça nous a ouvert beaucoup de portes et ça nous a permis de séjourner dans des tribus nomades, dans des villages où les femmes, les tisserandes, connaissaient encore la signification des symboles. Et donc, on a pu faire une espèce d'enquête, comme une enquête policière, en demandant aux femmes, ça c'est quoi? Et elles nous répondaient. Alors, bien sûr, elles donnaient au motif ce qu'on appelle des noms de travail. C'est-à-dire qu'elles avaient oublié l'origine du motif. Elle n'avait pas oublié sa fonction, mais elle était implicite, la fonction. C'est-à-dire qu'elle ne développait pas. Je vais vous raconter une anecdote pour illustrer ce propos. Par contre, elle connaissait le nom du motif. Et par déduction, on pouvait essayer de comprendre quelle était l'origine de ce motif. Alors, pour illustrer donc ce que je disais, il y a un motif qui est très répandu, qui est le losange. Donc, c'est un motif géométrique qui paraît purement décoratif, mais en fait, on a appris que ça représentait la fécondité. C'est la vulve, comme on retrouve sur les peintures rupestres de notre région. Et donc, on demandait dans un village très reculé, où les gens vivaient vraiment en autarcie, quelle était la signification de ce motif. Et là, on a remarqué des réactions bizarres. C'est-à-dire que les jeunes filles rougissaient, elles n'osaient pas parler. Les femmes un peu plus âgées, qui étaient un peu commères, riaient. Et en fait, on a compris que c'était quelque chose qu'on pouvait représenter, mais dont on ne pouvait pas parler, parce que c'est lié à la sexualité.
Et à la reproduction.
Et à la reproduction. Mais surtout la sexualité, qui est un peu tabou dans les pays musulmans, puisque la plupart des pays de tissage du Kilim sont des pays qui ont été islamisés, qui n'étaient pas musulmans au départ, mais qui ont été islamisés. Donc il y a une interaction entre les croyances chamanistes anciennes et l'islam. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le chamanisme survivait à des tas de signes. Par exemple, il y avait des chants et des danses avec des tambourins, avec des signes particuliers dessus qui vraiment étaient caractéristiques du chamanisme dans des populations qui se disaient musulmanes. Mais en fait, ils étaient restés quand même chamanistes.
Vous disiez tout à l'heure justement que le tissage, c'était essentiellement des femmes.
C'est uniquement des femmes.
Uniquement.
Tant que le tissage reste à usage domestique, ce sont les femmes qui tissent. Après, quand ça devient professionnel, par exemple en Inde, il y a beaucoup de tissages qui sont fabriqués dans un motif commercial. Donc là, tout le monde tisse, c'est un métier. Mais là, ce n'est pas un métier, c'est un art. Et ce sont uniquement les femmes, et elles sont dépositaires, justement, de la tradition. Les hommes ne connaissent pas grand-chose au Kilim. Ils sont incapables de vous donner le nom d'un motif. En revanche, ils participent au tissage d'une certaine façon, parce que toute la communauté participe. Parce que le tissage, ça représente plein d'étapes. Déjà, il y a la tonte du mouton, puisque le matériau principal, c'est la laine. Ensuite, il y a le cardage. Ensuite, il y a le filage. Ensuite, il y a la teinture. Et enfin, il y a le tissage. Donc, les hommes participent à toutes les étapes de l'élaboration d'un kilim, sauf l'étape finale qui est le tissage.
Quand on parle de coloration, de teinture, quelles sont les plantes, les matériaux sur place que les tisseurs et les familles utilisent?
Alors, la teinture, c'est la seule chose qui a subi un bouleversement avec l'apparition des colorants artificiels à la fin du 19e siècle. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les teintures étaient obtenues par fermentation avec des plantes, mais aussi des insectes, aussi des mollusques, et aussi des oxydes. Le bleu était obtenu à partir de, en Turquie par exemple, à partir d'un arbre, un arbrisseau qui s'appelle le pastel, et qui donne de l'indigo. Mais en Inde, il y a un arbre qui s'appelle l'indigotier, qui a les mêmes propriétés tinctoriales. Donc avec différentes plantes, on obtient la même couleur, en l'occurrence l'indigo. Ensuite, vous avez le jaune, qu'on obtient à partir d'une plante qu'on trouve assez fréquemment dans cette région ici, dans le Lot, c'est la baie de nerprin. Le nerprin, c'est un arbrisseau, qui donne des baies noires. Et en fait, par fermentation, on obtient une teinture jaune très profonde. C'est la principale source de la couleur jaune, parce qu'il y a des tas d'autres plantes qui donnent du jaune. C'est la couleur la plus répandue. Vous faites bouillir pratiquement n'importe quelle plante, vous obtenez du jaune. Il y a très peu de plantes qui donnent autre chose que du jaune. Et aucune plante ne donne du vert, bizarrement. Alors que la plupart des plantes sont vertes, il n'y en a aucune qui donne du vert. Donc ensuite, vous avez le rouge qui est obtenu par la garance, qui est une racine, qu'on trouve aussi dans nos régions, mais qu'on trouve beaucoup au Proche-Orient et en Asie centrale. Donc c'est une racine qui donne un rouge un peu brique. Et la couleur varie en fonction de l'âge de la racine. Parce que, en fait, plus une racine est âgée, et plus il y a de bois, et moins il y a d'écorce en proportion. Or, c'est l'écorce donne du brun, et le bois donne du rouge. Donc, plus la racine est vieille, et plus le rouge est intense. Si la racine est jeune, il y a plus d'écorce que de bois. À ce moment-là, ça donne plutôt un rouge marron. Après, vous avez la cochenille. Donc, la cochenille est un insecte parasite. Donc, il y a différentes cochenilles. On en trouve au Mexique, notamment, sur les cactus. Mais on en trouve au Proche-Orient, sur les chênes kermès. Donc, c'est un parasite du chêne kermès. Et on cultivait les chênes pour la cochenille. C'est-à-dire que les Arméniens, notamment, cultivaient les chênes pour obtenir des cochenilles, pour faire ce rouge, qui est un rouge carmin, qui est différent du rouge brique de la garance. Ensuite, vous avez le violet, qui était obtenu à partir d'un mollusque qui s'appelle le murex. Alors, on ne connaît pas la recette, on ne sait pas comment c'était fait, mais on sait que c'était obtenu à partir de ce mollusque et que ce sont les Phéniciens qui ont les premiers mis au point cette couleur. Et puis après, donc là, on a vu le rouge, le jaune, le bleu, c'est-à-dire les couleurs primaires, et la plupart des couleurs secondaires sont obtenues par mélange des couleurs primaires. C'est-à-dire qu'on fait un bain de rouge, après un bain de jaune, on obtient du orange. On fait un bain de rouge, un bain de bleu, on obtient du mauve. Et il n'y a pas vraiment de plantes qui donnent des couleurs comme le rose ou le mauve sur la laine. Après, bien sûr que sur d'autres matériaux, on trouve des pigments. Mais pour la laine, les couleurs que je viens de citer sont les principales couleurs utilisées et on n'en connaît pas beaucoup d'autres.
Ça nécessite un temps considérable pour préparer tout ça.
Oui, en fait, les couleurs, donc les anciens procédés de teinture étaient très compliqués. C'était une véritable chimie. En fait, on a un premier bain dans lequel on met la plante, ce qu'on appelle le ferment, qui va donner un bain acide avec la fermentation. La fermentation va dégager de l'acidité. Et ça va permettre à la teinture de pénétrer la laine, qui, elle, est protégée par le suint. Donc, il faut une teinture acide pour la pénétrer. Mais cette teinture acide, elle n'est pas très solide, elle ne se conserve pas, elle part à la lumière. Donc il faut prendre la moitié du liquide et la moitié du ferment et inverser le pH, transformer le bain acide en un bain alcalin. En l'occurrence, on utilise des produits comme la cendre recuite, comme le sel d'Alain, ça inverse, comme la chaux, ça inverse le pH. Donc on prend la laine, on la trempe dans le bain acide, on obtient une couleur, et ensuite on la trempe dans le bain alcalin et on fixe la couleur. Mais il y a très peu de couleurs qui donnent des tons foncés au premier bain. En général, il faut renouveler l'opération. Par exemple, on dit que pour avoir un bleu foncé, un bleu marine, il faut 18 bains successifs. Sauf qu'il faut attendre 10 jours entre deux bains, parce que sinon vous risquez d'alcaliniser le bain acide ou d'acidifier le bain alcalin. Donc ça veut dire que pour un bleu foncé, il faut 180 jours, c'est-à-dire 6 mois. Alors évidemment, la tisserande n'attendait pas 6 mois que sa laine soit teinte. Elle amenait de la laine non teinte chez le teinturier et elle prenait de la laine déjà teinte. C'est un petit peu comme les vignerons n'attendent pas 3 ans que la cuvée soit buvable. Hein. Il y a un roulement qui s'effectue. Mais quand les teintures artificielles sont arrivées sur le marché, qui se présentaient sous la forme de poudre qu'on pouvait transporter, il y a plein de petits malins qui ont court-circuité les teinturiers traditionnels, c'est-à-dire qu'ils sont allés eux-mêmes dans les villages, chez les nomades, qui ont proposé de teindre sur place, instantanément, et avaient eu des couleurs qu'on n'avait jamais vues, comme le vert pomme, le rose fuchsia, des couleurs qui n'existent pas avec les teintures naturelles. Et donc, très 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 rapidement, en l'espace de quelques années, le métier de teinturier traditionnel a disparu. Et avec lui, toutes les recettes, parce qu'elles n'étaient pas écrites, elles étaient transmises oralement de maître à élève. Et donc, Il y a des gens actuellement qui essayent de reconstituer ces teintures traditionnelles. Mais sinon, les recettes d'origine, comme par exemple la pourpre royale, celle qui permettait de teinter les toges romaines, de teinter les manteaux des empereurs, cette pourpre royale, on ne connaît plus son procédé de fabrication.
On va revenir un petit peu à la dimension de temps. Concrètement, il faut approximativement combien de temps pour faire un kilim entier ?
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'était pas un métier. C'est-à-dire que les femmes tissaient à temps perdu. Elles ne tissaient pas toute la journée, elles tissaient quand elles avaient le temps. Il y avait le métier qui est par exemple chez les nomades, c'est devant la tente. On dresse le métier pour toute la saison. Et ensuite, dans les fermes, le métier est à l'intérieur de la maison. Et la femme se met au métier quand elle a le temps. Et d'ailleurs, elle apprend à ses filles à tisser. Donc, vous voyez souvent des petites filles avec leur maman qui tissent. Donc, c'est difficile de définir un rythme de fabrication. Disons que, comme nous, justement, on a essayé de faire des reproductions de kilim anciens, on a été témoin de tissage qui était professionnel. Et disons qu'on calcule à peu près 1 mètre carré par semaine. Donc pour un tapis de 6 mètres carrés, 3 mètres sur 2, on compte 6 semaines.
Et est-ce que des tapis, des productions ont été faites sur des durées beaucoup plus longues, sur des générations peut-être ?
Non, ça je ne pense pas. Je pense qu'en général, d'après ce qu'on a pu observer, mais encore une fois, c'est de l'observation, il n'y a pas de preuve indiscutable. Mais d'après ce qu'on a observé, la plupart des tissages étaient faits par les jeunes femmes en vue de leur mariage. Ça constituait leur dot, leur trousseau. Donc elles tissaient beaucoup entre l'âge de 15 ans et 20 ans. Et après, les femmes tissaient occasionnellement donc pour les besoins. Par contre, en revanche, elles pouvaient tisser à plusieurs. Ça s'appelle imece en turc. Alors, je ne suis pas focalisé sur le turc, mais il se trouve que c'est la langue qui est la plus parlée dans les régions de tissage du kilim qui s'étend des Balkans jusqu'en Chine. C'est-à-dire qu'à partir de la Moldavie, une partie de la Bulgarie est turcophone, la Turquie bien sûr, l'Azerbaïdjan est turcophone, l'Iran est à 30% turcophone, ensuite toute l'Asie centrale est turcophone, à part le Tadjikistan qui est iranophone, jusque chez les Ouïghours, qui sont turcophones. Donc le turc, c'est vraiment la langue de communication dans toute cette région du monde. En gros, le long de la route, des routes de la soie. Probablement, justement, à cause des mouvements de population, c'est devenu la langue. Alors bien sûr, il y a des dialectes, mais disons que la racine est la même pour toutes ces populations.
Aujourd'hui, dans la population occidentale, une personne qui va acheter un kilim, est-ce que concrètement, ça va être plus pour la dimension d'ornement, de décoration, ou des fois, il y aurait peut-être une dimension beaucoup plus religieuse, beaucoup plus établie dans la recherche ?
Malheureusement, la plupart des gens qui sont amateurs de kilim, peut-être qu'il faudrait que je fasse une petite parenthèse pour expliquer la différence entre un kilim et un tapis classique. Il y a une différence toute simple, c'est que le kilim, c'est comme une tapisserie, c'est-à-dire que c'est l'entrecroisement de fils verticaux et de fils horizontaux. Alors que le tapis noué, il y a une trame de base, mais il y a des nœuds qu'on pratique sur la chaîne du kilim. La chaîne, c'est les fils verticaux. La trame, ce sont les fils horizontaux. Et donc, on fait des nœuds sur les fils de la chaîne entre deux fils de trame, ce qui donne un velours. Vous savez, quand on passe sa main sur un tapis, c'est doux, c'est comme un velours. C'est parce qu'il y a des nœuds. Alors que le kilim, c'est rêche. C'est comme les tapisseries médiévales. Et d'ailleurs, on pense que la tapisserie médiévale a été apportée en Occident par les croisades. C'est-à-dire que les Occidentaux ont découvert le kilim à l'occasion des croisades. Et c'est à partir de cette époque qu'on trouve des tapisseries en Occident. Avant, il n'en avait pas. La plus ancienne tapisserie, c'est à Bayeux, la tapisserie de Bayeux. La tapisserie de Bayeux, mais en fait, c'est une broderie. C'est-à-dire c'est un tissu brodé. Donc, la première tapisserie, c'est la Dame à la licorne, et ça date justement de l'époque des croisades. Donc, on peut faire un lien, mais encore une fois, bon, il n'y a pas d'écrit qui atteste cette théorie.
Alors, vous êtes aussi là pour nous présenter votre livre, Symbolique des Kilim, aux éditions Bleu Autour, c'est bien ça ?
C'est ça.
Co-écrit avec Ahmed Diller ?
Oui.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre ?
Justement, c'est... cette sensation qu'on vivait une époque extrêmement privilégiée, puisque dans mon adolescence et au début de ma vie d'adulte, il y avait sur la Terre à peu près toutes les étapes du développement humain, depuis le paléolithique, comme chez les Papous de Nouvelle-Guinée, ou les Indiens d'Amazonie, ou chez les Pygmées d'Afrique centrale, ou chez les Bushmen du Kalahari, ils vivaient encore comme au paléolithique. Ils n'avaient pas encore connu la révolution agricole. Et il y avait des régions comme justement l'Asie centrale, où les gens vivaient comme au néolithique, c'est-à-dire qu'ils vivaient en autarcie, ils pratiquaient l'agriculture, comme l'élevage, et après il y avait d'autres populations qui vivaient comme au Moyen-Âge, par exemple, si vous allez encore à Peshawar de nos jours, vous avez l'impression d'être transposé au Moyen-Âge, parce que c'est vraiment des coutumes et des modes de vie extrêmement archaïques, et puis donc vous avez l'homme moderne, donc toutes ces étapes du développement de l'espèce de l'Homo sapiens étaient présentes en même temps, mais on sentait que c'était vraiment la fin, c'est-à-dire que la mondialisation allait tout uniformiser. Je me suis rendu compte, par exemple, j'étais un des premiers à avoir un téléphone portable, et quand j'ai sorti mon téléphone la première fois, c'est dans un petit village du Mont Taurus, que j'ai sorti mon téléphone portable qui avait une longue antenne, et que les gens m'ont vu parler dans le téléphone, ils étaient complètement estomaqués. Mais 2 ans après, ils avaient tous un téléphone portable. La même chose avec le GPS. J'ai un ami du Nord-Pakistan, de la vallée de Swat, donc des contreforts de l'Himalaya, qui était venu me voir en France, et j'avais une voiture avec un GPS. Quand il a entendu la voiture parler, il était complètement médusé. 2 ans plus tard, il avait son GPS. Donc on voit la vitesse à laquelle... Alors, bien sûr qu'on ne peut pas retirer aux gens le droit de bénéficier de la technologie. Moi, je trouve ça très bien. Je veux dire qu'il y a des populations, justement, de régions un petit peu isolées qui avaient des vies très dures. Les gens mouraient jeunes, il n'y avait pas de médecine, pas de médicaments. Il y avait peu de moyens de soigner les enfants. Et donc, ces gens-là ont vu leur vie s'améliorer. Donc, je n'ai pas de nostalgie particulière. Mais en revanche, j'ai l'impression d'avoir une mission, c'est de rendre compte de ce que j'ai vu, d'être le témoin de cette transition, puisque j'ai connu des gens qui eux-mêmes ont connu des gens qui pratiquaient donc des techniques qui maintenant ont disparu. Et donc je me suis dit que c'était un petit peu mon devoir, pour laisser une trace de mon passage sur la Terre, d'écrire ce livre qui justement parle de cet art premier, le kilim, qui a débuté probablement au néolithique et qui est en train de disparaître avec la mondialisation.
Alors je rappelle, Symbolique des Kilim par Ahmed Diller et Marc-Antoine Galis aux éditions Bleu Autour.
Voilà.
En plus de ce livre, je crois savoir qu'il y a quelques actus concernant.
Oui, donc comme j'ai expliqué, j'ai fait du commerce des kilim un métier pour des raisons de nécessité. Il fallait bien que je finance mes voyages. Malheureusement, je n'ai pas eu de subvention, je n'étais pas ni un chercheur ni un ethnologue. Cela dit, je pense que le statut de marchand ouvre beaucoup plus de portes que celui de scientifique, d'ethnologue ou d'archéologue. Parce que dans tous ces pays, les gens savent que c'est que le commerce. Même le nomade du haut de sa montagne descend de temps en temps au bourg pour vendre ses fromages et acheter du riz ou des pâtes. Donc tout le monde sait ce que c'est que le commerce dans ces pays-là, et le commerce n'a pas une connotation péjorative comme ici. Ici, moi j'ai deux enfants, quand on leur demandait à l'école « qu'est-ce que fait votre papa ?» et qu'elle disait « il est marchand de tapis », tout le monde rigolait. Il y a une connotation péjorative. Et parfois, la maîtresse disait, quand les élèves discutaient ces décisions, elle disait « bon, on n'est pas chez, on n'est pas des marchands de tapis, on n'est pas au souk ». Donc il y a cette connotation péjorative qui n'existe pas du tout en Orient, où le commerce est quelque chose de noble, parce que c'est indispensable, parce qu'en même temps qu'on on distribue des produits, on distribue aussi des informations. Et donc, c'est aussi un moyen de communiquer entre les individus. Donc, j'ai été donc marchand de tapis pendant très longtemps. Et puis maintenant, j'ai arrêté cette activité, même si j'ai gardé la société que j'ai créée avec Ahmed Diller, qui continue à exister, mais qui est basée à Paris. Et moi, j'ai décidé de venir m'installer dans la région, et donc de basculer de cet état de marchand de me consacrer davantage à la réflexion et à l'écriture. Donc je travaille comme correspondant à la ville carcinoise, je m'occupe de la culture, et j'ai créé à Luzèche, la ville où j'habite, une association qui elle-même a installé une galerie d'art dans une église désacralisée qui s'appelle la Chapelle des Pénitents, où va se dérouler le 27 novembre, disons qu'il va participer à un marché de Noël, le marché de Noël de Luzèche. Alors donc, ce que je voulais dire, c'est que à l'occasion du marché de Noël, dans cette chapelle, on pourra découvrir une exposition de kilim et en même temps de tissage berbère. Alors justement, ce qui est remarquable dans les kilim, c'est que les motifs des kilim constituent un répertoire qui est commun depuis les Balkans jusqu'à la Chine. C'est le même répertoire. C'est comme si c'était un langage que tous ces gens-là maîtrisaient. Alors que quand on passe en Afrique du Nord, ça devient autre chose. D'ailleurs, on ne dit pas kilim, on dit azemour ou enbel. Et ce sont des tissages qui ont la même technique que les kilim, mais qui ont une symbolique différente, que je ne connais pas. Mais il y a une spécialiste donc, qui va m'accompagner et qui présentera des enbel, qui s'appelle Brigitte Verlet, qui est une passionnée du Maroc et qui va très souvent dans l'Atlas, qui connaît très très bien ces tissages. Et donc, vous pourrez, à l'occasion de ce marché de Noël, découvrir des kilims de tas de régions du monde, où il y aura des kilims des Balkans, des kilims anatoliens, des kilims iraniens, des kilims afghans, et ces tissages marocains qui sont faits selon la même technique, mais qui ont une signification complètement, enfin, différente en tout cas. Ce que je voulais ajouter, c'est que à cette occasion, donc moi je serai présent, je ferai des conférences personnalisées, c'est-à-dire que je répondrai aux questions des gens, et puis je montrerai des petits films sur justement des films que j'ai réalisés dans les années 90 dans la chaîne du Taurus, où on voit toutes les techniques traditionnelles qui ont maintenant disparu. Et on les voit filmés. Bon, à l'époque, c'était du Super 8. C'est pas des super qualités, mais j'ai un petit écran, donc on voit pas trop les défauts. Et donc, on voit vraiment le cardage traditionnel à l'arc. On voit la teinture traditionnelle. On voit toutes ces choses-là sur ce petit film. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y aura aussi des stands avec des produits artisanaux exotiques, donc de ces régions-là, qui seront à vendre, comme des bijoux, des coussins, des textiles, et au profit de cette association.
Vous l'aurez bien compris, le marché de Luzèche cette année va être passionnant. Il va y avoir différents stands et différentes activités, Alors n'oubliez pas, c'est le samedi 27 novembre 2021.
Voilà, de 10h à 19h, sans interruption.
Après toutes ces magnifiques explications qui pourraient tenir dans un créneau beaucoup plus large, mais nous n'avons qu'un temps défini, nous allons devoir mettre fin à cette émission, nous allons devoir nous quitter.
Mais j'avais encore plein de trucs à dire. On me censure.
Pour tous ceux qui sont intéressés et passionnés par l'idée de découverte dans le Kilim, je vous invite à vous offrir ou vous faire offrir pour Noël symbolique des Kilim aux éditions Bleu Autour.
Ah, bien sûr, je tiens à préciser, comme je reste marchand malgré tout, que le livre sera à vendre et que je le dédicacerai personnellement à l'occasion de ce marché de Noël. 36€, ce qui n'est pas cher, parce que c'est un très beau livre, avec plein de photos, beaucoup voilà. De photos.
On arrive au terme de cette émission. Je tiens à vous remercier de votre présence à mes côtés afin de partager votre passion, vos intérêts, mais également votre actualité aux auditeurs d'Antenne Doc.
Pour moi, c'était un privilège de pouvoir m'exprimer à votre micro.
Pour ceux qui souhaitent vous retrouver, n'oubliez pas Chapelle des Pénitents à l'Usège, mais également Marché de Noël le 27 novembre. Et également le livre symbolique d'équilibre aux éditions Bleu Autour, que vous pouvez trouver en librairie, en médiathèque, mais également sur le stand.
Dans la chapelle des pénitents.
Un grand merci à Marc-Antoine Galis.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous. C'était Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Je vous dis à très vite. Passez une belle journée. À bientôt.
Sevdiğine sözü olan bir kilim boku, kilimin dilinden ancak anlayan okur. Sırlarımı verdim sana, sevgimi verdim. Şu gönlümü kilim yaptım, yoluna serdim. Ayıptır, günahtır diye kilit vurdular dilime. Aşkı dokudum kilime, anlıyor musun? Yetinmedim, türkü yaktım, gayrı bu canımdan bıktım. Hani senin olacaktım, dinliyor musun? Kalbin aynasıdır, gönlün sesidir. Her nakışı bir duygunun ifadesidir. Kilim sevgiliye çağrı, aşka davettir. Kimi renkler şikayettir, kimi hasrettir. Ayıptır, günahtır diye kilit vurdular dilime, aşkı dokudum kilime, anlıyor musun? Yetinmedim, türkü yaktım, gayrı bu canımdan bıktım. Hani senin olacaktım, dinliyor musun? Ben şu gönül tezgahında kilim dokudum. Erenlerin dergahında aşkı okudum. Töremizde kilim demek, ilim demektir. kilim sevdadır, özlemdir, derttir, istektir. Ayıptır, günahtır diye kilit vurdular dilime. Aşkı dokudum kilime, anlıyor musun? Yetinmedim, türkü yaktın, gayrı bu canımdan bıktım. Hani senin olacaktım, dinliyor musun? Anlıyor.